La question des femmes. Femmes, j'ai le droit de parler des femmes. Les mémoires de Louise Michel écrits par elle-même, ripostes aux journaux conservateurs brodant sur les zones d'ombre de sa vie, sont publiées un an après la mort de sa mère. Les évocations sensibles de sa jeunesse côtoient ses hauts faits, comme des considérations plus générales pour donner à voir ce qui l'anime. Cet extrait compliqué souligne comment Louise Michel trouble le genre, plus par ses actes que par ses écrits, qui peinent parfois à saisir l'ampleur du dispositif discursif de la domination masculine. Jeanne de Rouyn, André Léo ou Hubertine Auclert, entre autres, ont plus conscience des essentialisations du discours genré, qu'elles attaquent bien plus frontalement. Ainsi, Louise Michel cite Proudhon, sans vraiment le déconstruire, accrédite au début de l'extrait le thème de l'emprise occulte des femmes, dont on sait, grâce à Michel Perrault, à quel point il est brandi pour légitimer la subordination des femmes, évoque enfin la femme fatale, l'un des plus violents stéréotypes fin de siècle. Parallèlement, elle fait sienne les positions féministes les plus radicales. Louise Michel considère, sans le moindre doute, que les femmes sont réduites à l'état d'esclaves. Elle attaque aussi, sans concession, le mariage, réduit à une prostitution légale. Enfin, suivant certaines féministes socialistes, ou la plupart des hommes de la constellation révolutionnaire, elle affirme que lutter pour conquérir l'égalité civique et civile est vain. Seul le triomphe de la révolution assurera la fin de toutes les dominations. Ainsi, nous habitons le vieil arbre social, que l'on s'entête à croire bien vivant, tandis que le moindre souffle l'anéantira et en dispersera les cendres. Nul être n'échappe aux transformations qui, au bout de quelques années, l'ont changé jusqu'à la dernière parcelle. Puis vient la révolution, qui secoue tout cela dans ses tempêtes. C'est là que nous en sommes. Les êtres, les races, et dans les races, ces deux parties de l'humanité, l'homme et la femme, qui devraient marcher la main dans la main, et dont l'antagonisme durera tant que la plus forte commandera ou croira commander à l'autre, réduite aux ruses, à la domination occulte qui sont les armes des esclaves. Partout, la lutte est engagée. Si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. En attendant, la femme est toujours, comme le disait le vieux Molière, le potage de l'homme. Le sexe fort descend jusqu'à flatter l'autre en le qualifiant de beau sexe. Il y affiche trop longtemps que nous avons fait justice de cette force-là, et nous sommes pas mal de révoltés, prenant tout simplement notre place à la lutte, sans la demander. Vous parlementeriez jusqu'à la fin du monde. Pour ma part, camarade, je n'ai pas voulu être le potage de l'homme. Et je m'en suis allée, à travers la vie, avec la vile multitude, sans donner d'esclave au César. Elle aussi, la vile multitude, on la flatte à ses heures, on l'appelle le peuple roi. Disons quelques vérités aux fortes parties du genre humain, nous ne pourrons jamais trop en dire. Et d'abord parlons-en de cette force, faite de nos lâchetés. Elle est beaucoup moins grande qu'elle ne paraît. Si le diable existait, il saurait que si l'homme règne, menant grand tapage, c'est la femme qui gouverne à petit bruit. Mais tout ce qui se fait dans l'ombre ne vaut rien. Ce pouvoir mystérieux, une fois transformé en égalité, les petites vanités mesquines et les grandes tromperies disparaîtront. Alors il n'y aura plus ni la brutalité du maître, ni la perfidie de l'esclave. Les femmes veulent-elles la même éducation que les hommes pour pouvoir gouverner? Soyez tranquilles, nous ne sommes pas assez sottes pour cela. Ce serait faire durer l'autorité, gardez-la, afin qu'elle finisse plus vite. Hélas, ce plus vite sera encore long. Est-ce que la bêtise humaine ne jette pas sur nous tous les suaires de tous les vieux préjugés? Soyez tranquilles, il y a encore pour longtemps. Mais ce n'est toujours pas vous qui arrêterez le raz-de-marée et qui empêcherez les idées de flotter, pareilles à des bannières, devant les foules. Jamais je n'ai compris qu'il y eût un sexe pour lequel on chercha à atrophier l'intelligence comme s'il y en avait trop dans la race. Les filles, élevées dans la niaiserie, sont désarmées tout exprès pour être mieux trompées. C'est cela qu'on veut. C'est absolument comme si on vous jetait à l'eau après vous avoir défendu d'apprendre à nager, ou même lier les membres. Sous prétexte de conserver l'innocence d'une jeune fille, on la laisse rêver, dans une ignorance profonde, à des choses qui ne lui feraient nulle impression si elle lui était connue par de simples questions de botanique ou d'histoire naturelle. Mille fois plus innocente elle serait alors, car elle passerait calme à travers mille choses qui la troublent. Tout ce qui est une question de science ou de nature ne trouble pas les sens. Est-ce qu'un cadavre émeut ceux qui ont l'habitude de l'amphithéâtre? Que la nature apparaisse vivante ou morte, elle ne fait pas rougir. Le mystère est détruit, le cadavre est offert au scalpel. La nature et la science sont propres, les voiles qu'on leur jette ne le sont pas. Ces feuilles de vigne tombées des pampres du vieux Silène ne font que souligner tout ce qui passerait inaperçu. Les Anglais font des races d'animaux pour la boucherie, les gens civilisés préparent les jeunes filles pour être trompées, ensuite ils leur en font un crime et un presque honneur aux séducteurs. Quel scandale quand il se trouve de mauvaises têtes dans le troupeau. Où en serait-on si les agneaux ne voulaient plus être égorgés? Il est probable qu'on les égorgerait tout de même, qu'ils tendent ou non le cou. Qu'importe, il est préférable de ne pas le tendre. Quelquefois, les agneaux se changent en lionnes, en tigresses, en pieuvres. C'est bien fait. Il ne fallait pas séparer la caste des femmes de l'humanité. Est-ce qu'il n'y a pas des marchés où l'on vend, dans la rue, aux étalages des trottoirs, les belles filles du peuple, tandis que les filles des riches sont vendues pour leur dot? L'une la prend qui veut, l'autre on la donne à qui on veut. La prostitution est la même, et chez nous largement est pratiquée la morale océanienne. Esclave est le prolétaire, esclave entre tous est la femme du prolétaire. Et le salaire des femmes, parlons-en un peu, c'est tout simplement un leurre, puisque, étant illusoire, c'est pire que de ne pas exister. Pourquoi tant de femmes ne travaillent-elles pas? Il y a deux raisons. Les unes ne trouvent pas de travail. Les autres aiment mieux crever de faim, dans un trou si elles peuvent, au coin d'une borne ou d'une route si elles n'ont plus d'abri, que de faire un travail qui leur rapporte tout juste le fil qu'elles y mettent, mais rapporte beaucoup à l'entrepreneur. Il y en a qui tiennent à la vie. Alors, poussées par la faim, le froid, la misère, attirées par les drôles ou drôlesses qui vivent de ça, il y a des vers dans toutes les pourritures, les malheureuses se laissent enrégimenter dans l'armée lugubre qui traîne de Saint-Lazare à la morgue. Tenez, quand une misérable qui barbote dans la fange prend dans la poche d'un pente, comme elles disent, plus qu'il ne lui donne, tant mieux. Pourquoi y allait-il? S'il n'y avait pas tant d'acheteurs, on ne trafiquerait pas sur cette marchandise. Et quand une honnête femme, calomniée ou poursuivie, tue le drôle qui la pourchasse, bravo! Elle débarrasse les autres d'un danger, elle les venge. Il n'y en a pas assez qui prennent ce parti-là. Si les femmes, ces maudites, qui, même suivant Proudhon, ne peuvent être que ménagères ou courtisanes, elles ne seront pas autre chose dans le vieux monde, sont fatales, souvent, à qui la faute? Et qui a, pour son plaisir, développé leur coquetterie et tous les autres vices agréables aux hommes? Une sélection s'est faite de ces vices-là à travers les temps. Cela ne pouvait être autrement. Ce sont des armes maintenant, armes d'esclaves, muettes et terribles. Il ne fallait pas les mettre entre leurs mains. C'est bien fait. Partout, l'homme souffre dans la société maudite, mais nulle douleur n'est comparable à celle de la femme. Dans la rue, elle est une marchandise. Dans les couvents où elle se cache comme dans une tombe, l'ignorance l'étreint, Les règlements la prennent dans leur engrenage, broyant son cœur et son cerveau. Dans le monde, elle ploie sous le dégoût. Dans son ménage, le fardeau l'écrase. L'homme tient à ce qu'elle reste ainsi, pour être sûr qu'elle n'empiétera ni sur ses fonctions, ni sur ses titres. Rassurez-vous encore, messieurs. Nous n'avons pas besoin du titre pour prendre vos fonctions quand il nous plaît. Vos titres ? Ah bah ! Nous n'aimons pas les guenilles. Faites-en ce que vous voudrez. C'est trop rapiécé, trop étriqué pour nous. Ce que nous voulons, c'est la science et la liberté. Vos titres ? Le temps n'est pas loin où vous viendrez nous les offrir pour essayer par ce partage de les retaper un peu. Gardez ces défroques, nous n'en voulons pas. Nos droits, nous les avons. Ne sommes-nous pas près de vous pour combattre le grand combat, la lutte suprême? Est-ce que vous oserez faire une part pour les droits des femmes, quand hommes et femmes auront conquis les droits de l'humanité? Ce chapitre n'est point une digression. Femmes, j'ai le droit de parler des femmes.